Dunning s'effondra en avant, les pieds dans le salon, la tête sous l'arcade. L'un de ses pieds lança une unique ruade, puis il s'immobilisa. La pointe de la lame qui s'était fichée dans le sol lui maintenait le buste relevé. On aurait dit qu'il était mort en faisant des pompes. Tout le monde criait. L'air empestait la poudre, le plâtre et le sang. Doris, les cheveux dans les yeux, se traînait sur un bras vers son fils mort. Je ne voulais pas qu'elle voie ça. Touga avait le crâne fendu de haut en bas jusqu'à la mâchoire, mais je n'avais aucun moyen de l'en empêcher.
« Je ferai mieux la prochaine fois, Mrs. Dunning, »
ai-je articulé d'une voix rauque.
« Je vous le promets. »
J'avais le côté du visage couvert de sang. J'ai dû essuyer mon œil gauche pour y voir. Je n'avais pas perdu connaissance. J'ai donc pensé que ma blessure n'était pas très grave. Je savais aussi que les plaies du cuir chevelu saignent abondamment. Mais j'étais quand même dans un sale état. Et s'il devait y avoir une prochaine fois, il me fallait filer d'ici au plus vite, incognito. Mais avant mon départ, j'avais quelque chose à dire à Bill Turcotte. Ou du moins à essayer. Il s'était affalé contre le mur, près des pieds écartés de Dunning. Il se tenait la poitrine et haletait. Son visage, à part les lèvres qu'il avait aussi violettes qu'un gamin qui se serait gavé de myrtilles, était d'une blancheur cadavérique. Je lui ai tendu la main. Il la saisit et étreinte avec panique. Mais il y avait une minuscule lueur d'humour dans ses yeux.
« Qui c'est le lâche maintenant, Amberson ?»«
Pas vous, » lui ai-je dit. « Vous êtes un héros. »«
Noé, »
fit-il d'une voix sifflante,
« tu balanceras la médaille sur mon putain de cercueil. »
Doris berçait son fils mort. Derrière elle, Troy tournait en rond, pressant fort la tête d'Allen contre sa poitrine. Il ne nous regardait pas, ne semblait pas conscient de notre présence. La petite fille sanglotait.
« Ça va aller, »
ai-je dit à Turcotte. « Vous allez vous en tirer. »
Comme si je le savais.
« Maintenant, écoutez-moi parce que c'est important. Oubliez mon nom. »«
Quel nom ? » ?»« Tu me l'as jamais dit. » »«
Exact, et... vous connaissez ma voiture ?»«
Ford. »
Sa voix faiblissait, mais ses yeux restaient rivés aux miens.
« Joli modèle. Décapotable. Moteur Y, année 54 ou 55. »«
Vous ne l'avez jamais vu. C'est ça le plus important, Turcotte. J'en ai besoin ce soir pour descendre dans le sud de l'État et je vais prendre l'autoroute parce que je ne connais pas d'autre itinéraire. » Si je peux atteindre le centre du Maine, je serai libre et lavé de tout soupçon. Vous comprenez ce que je vous dis ?
Jamais vu votre voiture,
fit-il, puis il grimaça.
Oh, bordel ! Ce que ça fait mal !
J'ai posé les doigts sur son cou couvert de poils rugueux pour lui tâter le pouls. Je l'ai trouvé furieusement emballé. Au loin, des sirènes hurlaient. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il roula des yeux.
Failli pas le faire. C'est pas à quoi je pensais. Je devais être fou. Écoute, mon pote. Si tu te fais arrêter. Tu leur diras pas ce que je. Tu sais ce que je.
Jamais. Tu lui as réglé son compte, Turcotte. C'était un chien enragé et tu l'as éliminé. Ta sœur serait fière de toi. À ces mots, il sourit et ferma les yeux. Dans le cabinet de toilette, j'ai attrapé une serviette, l'ai mouillée dans le lavabo et me suis nettoyé le visage. J'ai jeté la serviette ensanglantée dans la baignoire,
en ai attrapé deux autres et suis ressorti dans la cuisine. Debout sur le lino délavé près de la cuisinière, se tenait le garçon qui m'avait conduit en ce temps et en ce lieu. Il me regardait en suçant son pouce, chose qu'il n'avait pas dû faire depuis au moins 5 ou 6 ans. Ses grands yeux solennels étaient noyés de larmes. Des taches de rousseur de sang éclaboussaient ses joues et son front. Ce garçon venait à coup sûr de vivre une expérience traumatisante. Mais ce garçon-là grandirait et ne deviendrait pas le Harry Harrocrapi-Crapaud de génération de lycéens railleurs. Il n'écrirait pas non plus de dissertation qui me tirerait des larmes.
« Qui êtes-vous, monsieur ?»
me demanda-t-il. « Personne. » Je suis passé devant lui pour rejoindre la porte. Les sirènes s'étaient rapprochées, mais je me suis quand même retourné. Il méritait mieux que ça. « Ton ange gardien, » ai-je ajouté. Puis je me suis glissé par la porte de derrière et fondu dans la nuit d'Halloween de 1958. J'ai remonté Wymore jusqu'à Witcham, aperçu des gyrophares bleus se dirigeant vers Cossett Street et continué à marcher. Deux rues plus loin, dans le quartier résidentiel, j'ai pris à droite dans Gerrard Avenue. Des gens se tenaient sur les trottoirs, tournés vers le son des sirènes. « Pardon, monsieur, savez-vous ce qui se passe ?» me demanda un homme. Il tenait par la main une petite Blanche-Neige en chaussures de tennis.
« J'ai entendu des enfants tirer des fusées et des pétards, » je lui ai dit. « Peut-être qu'ils ont mis le feu. »
J'ai continué mon chemin en veillant à garder le côté gauche de mon visage détourné, parce qu'il y avait un lampadaire tout proche et mon cuir chevelu continuait à saigner. 4 rues plus bas, j'ai fait demi-tour pour remonter dans Witcham. À cette distance, au sud de Cossett, Witcham Street était obscure et silencieuse. Toutes les voitures de police disponibles se trouvaient probablement sur les lieux à présent. Bien. J'avais presque atteint l'intersection de Grove et Witcham quand mes genoux se sont dérobés sous moi. J'ai jeté un regard circulaire, n'ai vu aucun gosse en goguette, alors je me suis assis au bord du trottoir. Je n'avais pas le temps de m'arrêter, mais il le fallait pourtant. J'avais vomi tout ce que mon estomac contenait, même si je n'avais rien mangé de la journée à part une misérable barre chocolatée, dont je n'arrivais même pas à me rappeler si j'avais réussi à l'avaler tout entière avant que Turcotte me tombe sur le râble. Et je venais de vivre un épisode violent, au cours duquel j'avais été blessé, blessure dont j'ignorais encore la gravité. C'était donc soit m'arrêter maintenant pour laisser mon corps récupérer, soit m'évanouir sur le trottoir. J'ai mis ma tête entre mes genoux et inspiré plusieurs fois lentement et profondément, comme j'avais appris à le faire au stage de formation de la Croix-Rouge, que j'avais suivi à l'université pour décrocher mon certificat de sauveteur. D'abord, je n'arrêtais pas de voir la tête de Touga Dunning exploser sous la force meurtrière de la masse à estourbir les bestiaux, et ça n'a fait qu'aggraver ma faiblesse. Puis j'ai pensé à Harry, éclaboussé par le sang de son frère, mais par ailleurs indemne. Et à Hélène, qui n'était pas plongée dans un coma profond dont elle ne sortirait jamais. Et à Troy. Et à Doris. L'horrible fracture ouverte de son bras risquait de la faire souffrir le restant de sa vie, mais au moins elle aurait une vie. « Je l'ai fait, Al, » ai-je murmuré. Mais qu'avais-je fait en 2011 ? Qu'avais-je fait à 2011 ? Ces questions demeuraient encore sans réponse. S'il était arrivé quoi que ce soit de terrible à cause de l'effet papillon, je pourrais toujours revenir en arrière pour l'effacer. Sauf si, en changeant le cours de la vie de la famille Dunning, j'avais aussi d'une certaine manière changé le cours de celle d'Al Templeton. Supposons que son resto ne soit plus où je l'avais laissé. Supposons qu'il n'ait jamais déménagé d'Auburn. Ou qu'il n'ait jamais ouvert de restaurant du tout. Ça semblait peu probable. Mais moi, j'étais bien là, assis sur un trottoir de 1958, du sang dégoulinant dans ma coupe courte de 1958, et de cela jusqu'à il y a peu, quelle était la probabilité ? Chancelant, je me suis remis sur mes pieds et j'ai repris ma marche. À ma droite, dans le bas de Witcham, j'apercevais des éclairs palpitants de lumière bleue. Une foule s'était rassemblée à l'angle de Cossut, mais ils me tournaient le dos. L'église où j'avais laissé ma voiture était juste de l'autre côté de la rue. La Sunliner était seule maintenant dans le parc de stationnement désert, mais elle avait l'air intacte. Nul bambocheur d'Halloween ne s'était amusé à me dégonfler les pneus. Puis j'aperçus un carton jaune glisser sous l'un des essuie-glaces. J'ai aussitôt pensé à carton jaune et mon estomac s'est retourné. Je me suis emparé du feuillet et j'ai poussé un soupir de soulagement en le lisant. « Rejoignez vos voisins et amis pour le culte ce dimanche à 9h. Nouveaux fidèles, toujours bienvenus. Souvenez-vous, la question c'est la vie, la réponse c'est Jésus. »
Je croyais que la réponse c'était les drogues dures.
« Ah, je n'aurais bien besoin d'une dose en ce moment. » J'ai murmuré en déverrouillant la portière côté conducteur. Je pensais au sac en papier que j'avais laissé derrière le garage de la maison de Wymore Lane. Les flics qui fouilleraient la zone ne manqueraient pas de le trouver. À l'intérieur, ils tomberaient sur quelques barres Payday, une bouteille presque vide de caopectate et à ce qui ressemblait à des couches pour adultes. Je me suis brièvement demandé ce qu'ils en penseraient.